Merci d'écouter RFI, 18h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Lundi 13 janvier, bonsoir à tous. C'est parti pour une nouvelle semaine à l'écoute de l'info sur RFI. Voici les temps forts des 3 heures à venir. Avec dans 10 minutes le décryptage, Véronique Rigolet, 5 ans après le Covid, c'est la question, le monde est-il prêt à affronter une nouvelle pandémie?
Eh oui, 5 ans après, le virus est toujours là, mais la tempête a été maîtrisée grâce aux efforts déployés pour enrayer la pandémie. Les leçons de la crise ont-elles pour autant été bien retenues et surtout seront-elles suffisantes pour faire face à une nouvelle pandémie? On en parlera avec nos invités, le docteur Massamba Sassoun Diop, médecin urgentiste à Dakar, et le professeur Jean-Daniel Lelièvre, spécialiste de la vaccination et des maladies infectieuses, également expert auprès de l'OMS.
Eh bien, tout à l'heure, juste après, le débat du jour sera ce soir au chevet des agriculteurs français. Leur crise est profonde, elle menace d'éclater à nouveau. Un an après un mouvement d'importance, les syndicats agricoles étaient ce lundi reçus par François Bayrou, le Premier ministre. Peut-on vivre de l'agriculture en France? C'est la question que nous poserons. Alors que le nombre d'exploitations ne cesse de baisser, qu'est-ce que cette situation dit de la prise en compte du monde rural? Rendez-vous dans 30 minutes, dans une heure, le grand journal du soir, 18h30 TU Afrique Soir, la première édition à la une, le Mozambique, où le cyclone Dikeledi a touché terre. 19h10 TU, votre session reportage pendant 50 minutes. Accent d'Europe sera ce soir à Madrid, la capitale espagnole, où les jeunes ne peuvent plus se loger. Enfin, le grand reportage ce soir, Afghanistan, la longue nuit des femmes.
RFI.
Voilà pour le programme, mais à 17h, bientôt 2 minutes en temps universel, c'est le journal de Karine Bellicha. Bonsoir Karine.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Et à la une, la situation d'Olivier Grondeau.
Oui, ce Français détenu en Iran a décidé de sortir de l'anonymat et de parler. Il appelle à l'aide depuis sa prison d'Evin, incarcérée depuis plus de 2 ans. Il confie que ses forces s'amenuisent, tout comme celles des 2 autres Français détenus en Iran. Olivier Grondeau continue de clamer son innocence. Tous 3 sont considérés par la France comme des otages d'État. Bonjour Muriel Paradon.
Bonjour.
De quel levier les autorités françaises disposent-elles pour les faire libérer et comment les autres pays occidentaux agissent-ils dans les mêmes circonstances ?
Alors, ils étaient jusqu'à 7 détenus français en Iran. 4 d'entre eux ont été libérés en 2023 et 2024, après des années d'emprisonnement éprouvant. Benjamin Brière, Bernard Félan, Fariba Adelra et Louis Arnaud, tous ont été relâchés officiellement pour des raisons humanitaires. Il en reste désormais 3 encore détenus en Iran. La France, qui les considère comme des otages d'État, est en contact avec les autorités iraniennes pour les faire libérer, mais ne négocie pas officiellement. Les relations avec Téhéran sont difficiles. Paris est engagé dans le dossier du nucléaire iranien et pose comme préalable à la levée de sanctions contre l'Iran la libération de ses ressortissants. D'autres pays européens sont aussi confrontés à ce genre de détention. La Belgique, qui a négocié en 2023 un échange entre un travailleur humanitaire et un détenu iranien accusé d'avoir préparé un attentat en France quelques années plus tôt. Et puis la semaine dernière, c'est l'Italie qui relâchait un ressortissant iranien 4 jours après la libération d'une journaliste italienne détenue durant 3 semaines à Téhéran.
Muriel Paradon du service international d'RFI. C'est dans ce contexte que les Européens reprennent en Suisse les pourparlers avec Téhéran sur le dossier du nucléaire. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni tentent de remettre sur les rails les négociations à quelques jours de l'investiture de Donald Trump, lui qui s'était retiré au nom des États-Unis en 2018 de l'accord durement négocié avec Téhéran. Au Liban, le nouveau président élu le 9 janvier avait promis l'ouverture d'une nouvelle ère après plus de 2 ans de vacances au sommet de l'État. Après consultation, Joseph Aoun a nommé cet après-midi un premier ministre. Il s'agit de Nawaz Salam, jusqu'ici président de la Cour internationale de justice. Aux États-Unis, la lutte des pompiers est toujours acharnée contre les incendies dans la région de Los Angeles et les prévisions ne sont pas encourageantes. Le vent devrait redoubler d'intensité dans les prochaines heures. Impossible dans ces conditions d'envisager pour le moment le retour des dizaines de milliers d'évacués, au moins jusqu'à jeudi. Devant l'avancée des feux, d'autres hésitent à quitter leur domicile, comme Madeleine Pron, une franco-américaine scénariste à Los Angeles.
Soudainement, tous mes amis qui sont restés le premier jour sont partis. Ils sont allés à Palm Springs ou ils sont allés à San Diego et je me suis dit, mince, pourquoi on est toujours là? Et donc il a fallu que j'appelle justement mes amis qui sont restés, leur demander si est-ce qu'on est fou, est-ce qu'il faut qu'on parte tout de suite. Quand on voit d'autres gens qui partent, ça nous fait peur qu'on n'est pas en train de prendre la bonne décision. Et quand on regardait la carte et surtout cette application qui nous dit si on est en danger ou pas, on voit qu'on continue d'être en sécurité. On n'est pas près des feux, on n'est pas près non plus des collines, donc on n'imagine pas vraiment le feu venir jusqu'à nous. Mais c'est une discussion qu'on a tous les heures, quoi. On se demande, on regarde nos téléphones, on regarde les infos et d'une minute à l'autre, on peut changer notre avis, on peut partir.
Madeleine Pron, habitante de Los Angeles, interrogée par notre envoyé spécial sur place, Guillaume Naudin. Une nouvelle fois, la rentrée scolaire est reportée. À Mayotte, certaines écoles ont subi de nouveaux dégâts après le passage de la tempête dimanche. L'alerte rouge a été levée, mais Dikeledi a causé de grosses inondations sur un terrain déjà très fragilisé par le cyclone Chido il y a un mois. Les enseignants devraient reprendre le travail la semaine prochaine, avant les élèves un peu plus tard, mais aucune date n'est maintenant avancée. Écoutez le témoignage d'Abdallah Antoy, il est professeur d'anglais au lycée polyvalent de Dembéni.
La situation sur place, donc, elle est que certains enseignants métropolitains ou réunionnais ont choisi de rentrer chez eux. Il y a même quelques locaux qui ont aussi fait le choix de partir.
Comment ça va se passer dans votre propre établissement ?
Moi, notamment, mon propre établissement à moi n'a pas eu de casse. C'était un établissement qui est quand même assez moderne et assez robuste, qui a même servi de lieu d'hébergement pendant le pire du cyclone. Et donc là, l'établissement, il a été évacué.
Qu'est-ce que vous redoutez ?
Le manque de professeurs à Mayotte, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Dans notre propre établissement à nous, il y avait certaines disciplines qui, depuis la rentrée jusqu'aux vacances, on était toujours en manque de certains professeurs, des élèves qui n'avaient pas eu, par exemple, d'anglais ou de physique ou de mathématiques depuis la rentrée. Et donc là, à la rentrée, après le cyclone, là, quand on va reprendre les cours là d'ici quelques jours, c'est sûr qu'il n'y aura pas tous les effectifs. Ça, c'est une certitude. Au point où nous en sommes sur l'île, toute aide, toute bonne volonté est la bienvenue.
Abdallah Antoy, professeur d'anglais au lycée polyvalent de Dembéni à Mayotte, interrogé par Laurence Théo. Les renseignements sud-coréens suivent de très près les agissements de leurs voisins et des troupes de Pyongyang envoyées en Russie. Et selon eux, 300 soldats nord-coréens auraient été tués sur le sol russe. Séoul, Washington et Kiev accusent le régime de Kim Jong-un d'avoir envoyé plus de 10 000 soldats pour aider les forces russes dans leur invasion de l'Ukraine. Et pour éviter leur capture, les nord-coréens seraient même encouragés à se suicider. Une marée humaine a défilé aujourd'hui dans plusieurs villes des Philippines. Près de 2 millions de personnes au total, des membres de la puissante communauté chrétienne Iglesia ni Cristo, qui entend se faire entendre à quelques mois des élections. L'occasion de soutenir la très controversée Sara Duterte, la vice-présidente du pays menacée de destitution. À Manille, les explications de Nemo Lecoq-James.
Dans le cortège, il y a presque autant de pancartes pour la paix que de soutien à Sara Duterte. La vice-présidente des Philippines risque la destitution. Elle est visée par plusieurs plaintes pour avoir détourné des fonds et menacé de mort le président Marcos. Et si près de la moitié de la population philippine souhaite qu'elle quitte le pouvoir, ce n'est pas le cas des membres de l'Iglesia ni Cristo, la communauté religieuse que certains médias locaux qualifient comme une secte, rassemble quelque 2,8 millions de fidèles à travers le pays et a un poids politique important. À chaque élection, ses membres votent en bloc pour celui ou celle qui sera le plus offrant. Le but, obtenir des postes de choix au gouvernement pour les membres de l'Église. Ici aux Philippines, les prochaines élections de mi-mandat se rapprochent, elles auront lieu en mai. Dans un contexte politique particulier, les deux principales dynasties du pays se déchirent, le clan Marcos, celui du président, et le clan Duterte, celui de la vice-présidente. Alors aujourd'hui, les fidèles envoient un signal clair en défendant la vice-présidente. Ils ont un intérêt à soutenir le clan Duterte. Nemo Lecoq-James, Manille, RFI.
Le photographe italien Olivier Toscani est décédé à l'âge de 82 ans. Ses campagnes pour Benetton sont restées célèbres. Une religieuse à cornette embrassant un jeune prêtre, un homme mourant du sida. Certaines jugées scandaleuses avaient même été interdites en Italie ou en France. Et puis, un mot du Vendée Globe, les côtes françaises se rapprochent pour Charlie Dalin, leader du Tour du Monde en solitaire sans escale. Le navigateur normand se trouve à 250 km de l'arrivée. Il est attendu au Sable d'Olonne demain matin. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le décryptage de Véronique Rigolet.